Bonjour, bienvenue, c'est le meilleur de la bande originale avec Leila Kadrboudadi, Tom Villa et Frédéric Sigrist. Aujourd'hui, Florence Foresti, Mathieu Kassovitz, la bande originale de Pablo Poli et de Grand Corps Malade qui fera du live également, évidemment, et il y aura Féfé, c'est le meilleur de la bande originale et c'est parti. T'as un problème de fauteuil ou quoi?
Il y a une petite manivelle, j'adore.
Mais non, faut pas la toucher.
Ah, faut pas toucher la manivelle.
Surtout pas.
Surtout, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe quand on touche la manivelle?
Tu te retrouves en France Bleu.
Non, c'est super dangereux. Super dangereux. Merci de venir à ce micro nous parler de Plus Belle. Plus Belle, ce film, le premier film d'Anne-Gaëlle Daval. J'ai peur, Tom Villa, vous n'avez pas bien compris pourquoi Florence Foresti et Mathieu Kassovitz étaient nos invités.
Mais si, évidemment, déjà, bonjour Mathieu Kassovitz. Bonjour Madame Foresti.
Non, vous pouvez l'appeler Florence. Hein.
Non, c'est contractuel, Nagui. Non, c'est pas uniquement par respect pour la personne, mais aussi parce que Madame Foresti, on doit l'appeler par le dernier spectacle qu'elle a fait. Donc, Madame Foresti, voilà. Pendant 2 ans, on l'a appelée Motherfucker. Ça va, je peux vous dire. Par contre, quand elle jouait la pièce Labribus, elle faisait la gueule. Donc, bonjour à vous deux. Vous venez nous présenter donc le film de Plus Belle, réalisé par Anne-Gaëlle Daval, qui raconte l'histoire de Lucie, donc vous, Florence, qui, après avoir vaincu un cancer du sein, repart à la conquête de sa féminité. Cancer du sein, donc c'est bien, on est dans la thématique du moment. Vous, avec le cancer du sein, mal de pierre et les calculs rénaux, passion de grand corps malade sur la tétraplégie. C'est Michel Simès qui gère le cinéma français en ce moment.
Non, mais il fait la programmation en tout cas.
C'est à noter que c'est quand même plus qu'un film sur la maladie, c'est un film sur l'après. C'est exactement comme bosser avec Daniel Morin, c'est comment se reconstruire après, comment s'accepter. Et sur son chemin, Lucie croisera Clovis, donc vous, Mathieu Kassovitz, qui drague tout ce qui bouge. Voilà, Clovis, c'est le renard des surfaces du Mar
Combat. Personnage de fiction, bien sûr.
Bien entendu, le sec du cul, il se balade dans les boîtes de nuit avec son petit air de paille touchée à la Fillon. Et t'inquiète, comme François, il y touche. Hein. Sauf que, problème pour Clovis, Lucie, bah, elle est bloquée. Très bloquée. Voilà, on dirait le périph à 18h30. Et en même temps, elle a trois.
Faut voir.
Ouais, belle image. Elle a bah, trois, avec, faut... avec ses poumons, avec ses tunnels.
Ouais. Faut voir évidemment l'entourage aussi de Lucie. Une mère aussi douce qu'un papier de verre passé à la chaux. Une ado aussi sympathique que Kim Jong-un lors d'un essai de missile. Il y a de quoi elle mal dans sa peau. Alors heureusement, il y a son frère qui est joué par Jonathan Cohen qui est incroyable. Même si j'ai attendu tout le film au moment où il allait sortir un gros mytho, comme son personnage de Serge le mytho sur Canal. Bah, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des personnages qui collent à la peau. Comme ça, c'est comme Thomas Sisley, j'arrive pas à le voir autrement qu'en Largo Winch. En même temps.
Lui, il n'a plus. C'est ça qu'elle dit.
Oh là là, la fourberie du type.
Bon, voilà, de Plus Belle, ça sort le. C'est hasard du calendrier ou
t'as
pas.
T'as un compte à régler avec Thomas Sisley.
Pas du tout. Pas
en tout cas,
tout.
C'est fait, en tout cas. C'est
très bon, bon, on l'embrasse, Thomas. De Plus Belle, ça sort le. Est-ce que je m'enfonce en disant ça?
Ouais.
Non, on s'en fout. De Plus Belle, ça sort le 8 mars, hasard du calendrier ou pas d'ailleurs. C'est aussi la journée de la femme.
Exact.
Donc, très bon timing. Et puis surtout, la bonne année. Parce que vu que ça se décale chaque année, bah, le 9 mars, c'est la journée mondiale du rein. Pas terrible. Le 10, c'est la journée nationale de l'audition. Et le 11, c'est la journée mondiale de la plomberie. Donc voilà, le 8 mars, la journée de la femme, c'est parfait. Juste, Madame Foresti, laissez-moi vous dire que vous êtes extraordinaire. Juste un petit regret. Le film a été tourné à Lyon. Voilà, votre dernier gros film barbecue était aussi tourné à Lyon. Donc on rappelle que vous êtes lyonnaise. Donc si un film n'est pas tourné à Lyon, vous le faites pas.
C'est vrai. Ça, non, mais tu crois pas si bien dire, vraiment. Hein. Mais c'est vrai. Hein.
Elle fait partie des aides du conseil régional aussi.
Oui,
ils financent, ils fournissent Florence Foresti.
Mais la chance que j'ai eue, c'est que la réalisatrice Anne-Gaëlle Daval est lyonnaise aussi. Mais ouais, ça fait partie de mes critères de choix.
Bon, bah, très bien. Donc, je sais pas si j'ai tout compris. Mais
j'aime bien dormir chez moi.
Malheureusement pour nous, qu'il n'y ait pas plus de film tourné à Lyon.
C'est difficile le jour où Woody Allen, c'est ça. Le jour où Woody Allen voudra la faire.
J'ai un appart à New York.
Ah,
je me suis préparée.
Voilà. Sinon quoi, Tom?
Bah, sinon, on verrait plus souvent Florence Foresti au cinéma.
Merci, Tom.
Ah, pardon, Tom. Oh, bon, non,
c'est pas grave. C'est pas grave.
Le meilleur moment sur France Inter.
Ça fait plus de droits d'auteur.
Mais arrêtez avec vos droits d'auteur. Le timing de la chronique.
Ceci étant, vous avez, on en parlera tout à l'heure, un rythme quand même raisonnable au cinéma. C'est quoi? C'est un par an en moyenne?
Non, moins que ça, je pense. Mais c'est surtout ce qui me plaît, quoi. Donc ça peut peut-être être 5 par an, ça peut être 5 pendant 5 ans. Enfin, ça dépend de ce qui arrive, quoi.
J'ai l'impression, vous vérifierez, mais j'ai l'impression que la moyenne, c'est un par an depuis quelques années. De Plus Belle. Donc, tout a été, pour une fois, pas trop mal résumé.
Bravo.
Pas trop mal résumé.
Parce que le film est bien.
Oh, merci.
Mais quand même. C'est vrai que le point de départ, c'est cette demoiselle qui se retrouve en boîte de nuit. On a l'impression qu'elle est au bout du rouleau.
Elle l'est.
Or, c'est normalement, il y a une renaissance, elle est guérie, elle n'est plus malade, elle a vécu sa chimio, son frère qui est oncologue lui la rassure en lui disant
Mais
je t'assure, tout va bien, il n'y a aucun problème, mais elle est en boîte. Et là, en boîte, le rapace arrive.
Le rapace.
Le rapace. Le rapace.
Le prédateur.
Clovis.
Mime le film.
Non, je vais pas faire ça, mais c'est tout le tout début. Ouais, cette... Non, mais c'est bien aussi de voir avec quelle musique vous débarquez en boîte de nuit, initialement attiré par Olivia Bonamy, c'est ça.
J'ai l'habitude de ce truc-là. En plus, j'ai des copines super
elle
belles.
Elle est belle comme tout, Olivia.
Elle est sublime. Ouais. J'ai une sœur très belle et des copines très belles. Et donc, j'ai l'habitude de... Bien sûr, j'ai une sœur. Regarde-le. Donc j'ai l'habitude d'être approchée pour mes amitiés, tu vois.
Et au milieu de cette drague arrive une, un appétit assez, assez particulier. Parce que moi, je, on va garder le terme de prédateur parce que c'est un peu ça quand même. Vous êtes un chasseur de filles. Dans le film, Mathieu Cassavetes.
C'est un séducteur, non,
c'est un séducteur, c'est un mec qui pêche en boîte, quand même.
Ouais, enfin, un mec, en fait.
Enfin, mais qui les, oui, les, qui les aligne, oui, bien sûr. Oui. Bon, bah, ça, c'est tout le monde. Enfin, c'est pas une spécialité.
Masculine,
si. Enfin, si, c'est une spécialité masculine, mais c'est pas spécifique à une seule personne.
Non.
Nous partageons tous un petit peu ce.
Ah non, mais il ne s'est pas montré.
Toujours est-il qu'il ne va rien se passer de particulier au-delà de la drague. Vous, vous êtes mal dans votre peau et on peut le comprendre parce que vous avez été malade. Vous dites
et puis vous avez vu la perruque que je me colle sur ton
début. Mais moi, au début, je pensais que c'était pas une perruque.
Oh, la méchanceté de la
personne. Non, tant mieux. Non, mais ça veut dire que c'est bien
fait. C'est-à-dire que c'est bien fait. Et de se dire surtout, il faut s'accepter tel qu'on est, retrouver de nouveaux rapports, un nouveau rythme. Vous dites même que le rythme, votre emploi du temps a été conditionné par les rendez-vous avec le médecin à l'hôpital. On s'occupait de tout et puis là maintenant il faut tout reprendre à zéro à une quarantaine d'années.
Ouais. Ouais, je pense que c'est un peu comme quand on sort de prison, j'imagine, j'en sais rien. Enfin, que quand, quand on a des horaires et tout, et ben quand on sort d'une maladie, c'est pareil, il faut réapprendre à vivre une vie normale, sans rendez-vous, sans, enfin, sans rendez-vous médicaux et tout. J'imagine que c'est compliqué.
Et à s'accepter malgré la chimiothérapie, malgré le physique fatigué par, par tous ces médicaments. Et là, une rencontre se fait avec Nicole Garcia.
Oui. Qui... Génial, Nicole Garcia. Mais on rêve d'un coach comme ça dans la vie qui vous amène
on rêve de lui ressembler,
la féminité. C'est vrai, ouais, elle est sublime. Ouais. Oh, moi, j'étais fascinée, fascinée par cette rencontre dans le film. J'allais dire, Florence, que j'ai été fascinée par la rencontre de ces deux personnages dans le film.
Un magasin de moumoutes, ça va, on va pas en faire.
Non, 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 et elle est coach.
Oui, mais elle a d'abord un magasin de perruques qui fait qu'elle recrute, on va dire. Enfin, c'est pas qu'elle recrute, mais c'est qu'elle rencontre des femmes un peu cassées à travers cette vitrine. Et puis, dans son arrière-boutique, elle donne des cours de striptease burlesque et de danse, ce qui fait que ces femmes ont l'occasion de pouvoir réapprendre à s'aimer grâce à elle. Ouais.
À s'accepter dans un miroir et à s'aimer. Ouais. On ne va pas tout raconter aussi parce qu'il y a quelques rebondissements dans le film. Apparemment, vous vous êtes préempté l'un l'autre, vous êtes choisi, vous vouliez absolument que Mathieu
Cassavetes... Moi, je ne tourne qu'à Lyon. Et qu'avec Mathieu Cassavetes.
C'est ça.
Donc ça limite beaucoup les projets.
Mais c'est pas dégueu.
Je suis en train d'acheter un appartement à Lyon pour pouvoir remplir mes
Et vous, Mathieu, vous avez dit, moi, j'ai à peine lu le scénar, simplement le fait que Florence Foresti soit dans le film, j'ai accepté.
Oui, en fait, on m'a filé le scénario en me disant que c'était Florence et j'étais très curieux de voir ce qu'il y avait. Et le personnage était effectivement écrit pour elle, mais pas du tout dans la thématique si, mais pas du tout dans l'humour et dans la comédie qu'on a l'habitude de voir chez elle. Mais par contre, ça sentait la Florence, quoi. Vraiment, c'était fait pour elle. Non, c'était vraiment.
Vous êtes toujours dans le personnage, j'ai l'impression.
Oui, non, mais. Non, mais en tant qu'artiste et en tant qu'admirateur de. Son travail, je me disais c'était vraiment un beau véhicule pour elle pour exprimer un peu tout ce qu'elle exprime sur scène, mais d'une manière beaucoup plus...
Pudique peut-être.
Pudique, voilà, exactement.
Oh. Parce qu'on se complète bien.
Parce que c'est vrai qu'il y a une part de quoi de féminisme dans ce film aussi. Vous défendez souvent d'ailleurs le regard des autres sur la femme quand vous êtes sur scène.
Oui, disons que, enfin, sans aller jusqu'à parler de féminisme, parce qu'elle s'en défend, Anne-Gaëlle, donc je me permets.
Mais c'est quoi le féminisme, excusez-moi.
Il y en a beaucoup qui te diraient c'est de l'humanisme. C'est de l'humanisme, tout simplement.
La définition
du.
Ah, c'est que la femme elle a les mêmes droits que l'homme. Tu vois,
donc c'est défendre les droits de la femme.
C'est de l'homme.
Réhabiliter.
Ce qui peut très bien
être réhabilité après des années et des années de. de domination entre guillemets,
ce
de
qui
faire
peut aller
en sorte
très bien à une
égalité.
Femme, ce qui peut aller à une femme, ce qui peut aller à un homme, ce qui peut aller à une femme sexy aussi. C'est-à-dire que le féminisme, le problème, c'est qu'on a toujours l'image de la fille totalement austère et féministe. Or, il y en a heureusement qui sont extrêmement sexy et féministes. Mmh. Les deux peuvent aller ensemble.
Oh, qu'est-ce c'est sexiste ce que
c'est. C'est horrible, j'ai envie de mourir.
Qu'est-ce que c'est sexiste. Non, mais c'est vrai, mais on peut pas.
C'est pas sexiste.
Nous sommes deux partie d'un même corps qui est complètement différent et il faut l'accepter en tant que tel. Ouais, maintenant, c'est vrai que le féminisme pour défendre les droits de la femme.
Il représente la moitié de l'humanité.
Des droits de la femme, évidemment, ça c'est. Mais ce film-là ne représente pas les droits de la femme, il représente. Enfin, les droits de la femme d'être une femme, peut-être. Oui.
Bah, je sais pas, là, il faudrait plutôt demander à sa réalisatrice, mais moi, ce qui m'a touchée, on va dire, et ce qui trouve un écho par rapport à mon travail, puisque c'était ta question, je pense, c'était, le rapport à la féminité, plutôt, que le féminisme. D'accord. C'est-à-dire, comment on définit la féminité, est-ce que ça doit forcément passer par des clichés, mais enfin des artifices, ce genre de choses. Moi, je m'interroge beaucoup sur la féminité, sur les complexes, sur le rapport au corps. C'est ça qui m'a touchée. Le rapport à la famille aussi, qui construit, je dirais, la confiance que va avoir une femme plus tard. Je crois que vraiment c'est très important ce qui se passe dans son enfance, ce qui se passe avec sa mère évidemment, puisqu'elle lui transmet ou pas la féminité, elle lui apprend ou pas la féminité. Et dans ce film, il est beaucoup question de ça m'a touchée.
Et puis dans le personnage de Mathieu est pas si prédateur que ça. Je me faisais la réflexion. On le présente comme un dragueur de boîte de nuit, mais c'est un peu plus nuancé parce que un vrai dragueur de boîte de nuit serait pas arrêté.
Oh, il serait pas intéressé à moi.
Non,
je pense.
Il serait pas arrêté et il vous aurait pas conduit dans les aventures qui suivent dans le film.
C'est vrai.
Une expérience quand même du sujet.
Parce que je trouve qu'il faut autant réhabiliter aussi la figure de l'homme qui est pas caricaturale.
Exactement. Merci. Et ce film aussi sert à ça.
De ce point de vue-là, si on est féministe, on est aussi dans un regard bienveillant sur les deux.
Oui, c'est pas un connard guidé uniquement par le désir de séduire. Attention, il est touchant. Et d'ailleurs, il fait quelque chose. Il m'emmène à mon premier rendez-vous en maison de retraite pour voir sa grand-mère. C'est hyper touchant. Enfin, c'est vraiment. Bon, c'est là que sa rédemption.
C'est le truc de base.
Comment ? C'est le truc de base. Ah, en fait, t'as payé la dame. En fait, c'est pas ta grand-mère. Non, mais voilà. Ça réhabilite aussi, je suis d'accord, l'image de l'homme qui doit pas être réduite à juste au prédateur, justement.
C'est un premier film, celui d'Anne-Gaëlle Daval, qui était costumière, qui le reste un peu aussi dans ce film, puisqu'il y a quand même une part belle faite au costume et mise en scène, et justement au burlesque, au striptease burlesque dont vous parliez. Est-ce que le fait de se retrouver, vous qui avez beaucoup tourné, et avec des grands noms du cinéma, face à un premier film, c'est une expérience à la fois excitante, parce que vous lui apportez toute la caution nécessaire, preuve en est avec cette promo aujourd'hui, mais il y a une part de risque aussi, j'imagine, on ne sait pas comment on va être filmé, comment on va être éclairé, comment on va être dirigé.
Oui, c'est vrai, mais j'ai l'habitude de ne pas m'embarrasser de ces questions-là. Je devrais peut-être, mais comme j'ai été séduite par le texte, tout de suite, je fais confiance. Et puis la personne aussi, Anne-Gaëlle, évidemment, si on ne s'était pas entendu ou si, je ne sais pas, si le courant n'était pas passé, je n'y serais pas allée. Et puis il y avait un casting rassurant aussi. Enfin, c'est très rassurant pour moi d'être entourée d'acteurs comme Mathieu et comme Nicole.
Jonathan Cohen et Olivia Bonamy et José Drevon.
C'est un confort incroyable d'être entouré comme ça. C'est extrêmement valorisant.
C'est vrai, Mathieu, qu'elle vous a demandé quelques conseils par moment de réalisation.
Anne-Gaëlle.
Oui. Non. Non. Il y a des moments quand elle était en galère.
Pourquoi vous dites non alors que dans une interview vous dites oui.
Oui, parce que je change à chaque interview.
Sinon, il s'ennuie.
Non, parce que
alors que elle, aussi dans une interview elle a dit de temps en temps j'avais demandé à Mathieu
des conseils, mais c'est juste elle était un peu en galère, il est tard. Est-ce que je fais ce plan-là, est-ce que je fais ce plan-là, ou est-ce que je sais que bon, je dis je sais pas, mais c'est là, je sais pas moi.
C'est bien, c'est précis.
On ne s'est pas mis à travailler le truc. Elle faisait son boulot. Moi, je veux pas. Elle quand elle dit, elle regarde, je dis oula, débrouille-toi. De ton côté, truc, et puis elle s'est débrouillée toute seule, elle a fait son truc de A à Z. Mais c'est vrai que bon, j'étais là, je regardais d'un œil parfois bienveillant, parfois énervé parce qu'il est 19h et que je dois rentrer à la maison. C'est quoi, comme ça, il y a encore une séquence à faire. Voilà quoi.
C'est pas des conseils techniques d'emplacement de caméra ou de.
Jamais de la vie. Je fais ça en douce avec le chef op derrière.
L'escroc, quoi, c'est pas possible, c'est pas possible.
L'idée de ce film, donc, c'est le regard essentiellement d'une femme sur elle-même, mais que ce soit dans, comme vous l'avez dit, sur sa famille et sur l'éducation qu'elle a reçue, sur son rapport à tous ceux qui sont autour d'elle dans la société, et dans le miroir, c'est-à-dire comment elle s'accepte.
Oui. Bah oui, et ça, on sait que c'est primordial pour une femme et pour un homme d'ailleurs.
Pour être bien dans sa peau, c'est ça.
De se plaire un minimum, d'apprendre à s'aimer.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un film sur le regard?
Oh, oui.
Non, non, mais
oui,
sérieusement, parce qu'il y a la scène de miroir, il y a les la beauté est dans l'œil de celui qui regarde, évidemment. Voilà.
Oui, je suis d'accord.
Et ça, c'est ce que j'ai souvent, on a souvent parlé de ça pendant sur le tournage.
François, si vous êtes d'accord, sauf qu'au début, vous avez cru que c'était une vanne. On est d'accord.
Bah oui, j'ai toujours l'impression qu'il se fout de ma gueule, celui-là. Mais des fois, il dit pas que des conneries. Hein.
De plus belle, elle est guérie. Cette maladie pourrait être qu'un lointain souvenir, mais on imagine aussi quand on est frappé et qu'on est atteint d'un cancer qu'il y ait, quand il y a, on vous annonce une victoire, on est marqué à vie. La cicatrice est toujours présente. Et donc elle est largement affaiblie, au point de ne même pas croire le corps médical en lui disant si tout va bien. Et elle va se reconstruire au contact de Dalila.
Dalila.
C'est le nom de Nicole Garcia qui est formidable.
Oh, formidable Nicole Garcia.
Génial. Et puis elle est bilingue.
Oh, ah, elle tout faire.
Mais c'est vraiment un rôle, moi je trouve incroyable.
Pour réapprendre à aimer, ouais. Et puis ça commence par s'aimer soi-même. Mm.
Et non, moi j'étais vraiment fascinée par cette rencontre-là entre ces deux femmes, par Nicole Garcia et la rencontre avec Florence Foresti. C'est simplement de se dire, c'est aussi ce regard des femmes sur les autres femmes et des regards bienveillants. Et c'est important de le mettre en valeur tout d'un coup, c'est de se dire, on va pas juste se comparer et se dire, moi je suis plus féminine que toi.
Oui, ce qui n'est pas du tout le cas entre nous, franchement. Enfin, je sais pas pour les autres, mais la pseudo-rivalité qu'on donne aux femmes comme ça, qu'on prête aux femmes, moi je la connais pas. Nous on est que en train de se rassurer, mais non t'as pas grossi, mais non t'as pas vieilli, mais non t'es belle, mais non t'es bronzée, mais non tes cheveux sont beaux.
Ah vous faites que mentir. C'est dingue.
Non, non, je pense. Mais quand je vous dis que mes copines sont belles, non, non, vraiment je le pense.
Et puis il y a le rapport à la famille aussi au milieu de tout ça, que ce soit le personnage de Mathieu Kassovitz avec sa grand-mère et les amis de sa grand-mère, que ce soit vous dans des rapports extrêmement tendus.
Elle est pas très sympa ma mère. Hein.
Avec votre maman, le rapport tendu également avec frère, enfin tendu peut-être.
Non, mon frère, ma sœur ça va. Si ma sœur elle m'en veut un peu parce qu'on parle beaucoup de moi. Je suis la petite dernière, je suis la petite malade, alors. C'est vrai que peut-être dans une fratrie, c'est dur aussi à porter que. Puis ça me parle pour d'autres raisons. Mais que la lumière soit.
La petite dernière, non, c'est vous la grande sœur.
Ah ouais, merde, je me trouvais plus jeune que les autres, mais non. Oui, c'est moi la vieille.
Non, mais
la petite dernière, en l'occurrence, la petite malade, donc.
J'ai l'impression que c'était au grand.
Bon, non, bah, en tout cas, la petite.
Enfin bon, ça rentre pas
celle qui attire l'attention parce qu'elle est malade d'ailleurs. Ma mère dit un peu, elle va encore se faire remarquer, elle va nous faire une récidive juste pour se faire remarquer, en gros.
C'est ça.
Donc, ma sœur, elle en a un petit peu marre de ça, mais ça se comprend, tout ça, ça me parle aussi. Je pense qu'il y a une part de réalité là-dedans.
Vous cherchez, si on cherche à trouver un enseignement à ce film, c'est-à-dire, vous parliez tout à l'heure du regard qu'on a sur soi, du regard sur les autres, il y a une forme de, je sais pas, de morale ou de conseil. Vous aimeriez qu'on dise quoi en sortant finalement de la projection ?
J'ai l'impression que Florence est à l'école, qu'on lui pose une
question. Je pense que c'est simple.
Enfin, moi, je pense que c'est un truc sur le regard qu'on porte sur soi-même et le regard que les autres portent sur nous. Je pense que c'est très important d'avoir un regard positif sur soi-même pour permettre aux autres de l'avoir sur vous aussi.
Il faut être tolérant avec soi-même.
Il faut être doux avec indulgent.
C'est ce que me dit Nicole. Sois doux.
C'est ce que dit Nicole d'une manière.
T'as vu, j'essaye d'avoir
sexy,
la.
Hein, ouais. C'est magnifique. Elle est incroyable.
T'as vu, j'essaye d'avoir la voix cassée comme elle.
Dégager autant de féminité.
C'est pas vrai. Mais moi, je suis un peu tombée amoureuse.
Elle efface tout le monde.
Moi, je suis tombée amoureuse de Nicole Garcia.
Sur le tournage, je l'ai pas rencontrée, mais c'était magnifique.
Ah,
pardon. Bonjour, Florence.
Moi, je voulais saluer la BO du film aussi parce qu'il y a de purs morceaux comme ce slow You Are So Beautiful de Joe Cocker. Il y a Damien Rice aussi que j'adore.
Ah, ils l'ont gardé ?
Ouais. Tu devrais aller voir le film, il est bien.
Je croyais qu'ils n'avaient pas les droits. M'en fous. Il faut que ça se sache.
Et Ima Sumac.
Ah ouais, ça c'est rigolo, ça
c'est génial.
Vous êtes amusé les répètes, tout ça.
Ouais, c'était marrant. Et vous dansez très bien.
Ouais. Mais toutes les filles, toutes les femmes, tout le groupe de femmes, ouais, c'est génial.
Ils sont trop mignonnes.
Mais vous aimez ça, oui. Ne serait-ce que dans les spectacles que vous faites, vous aimez qu'il y ait un chorégraphe, des heures de répétition pour que ce soit à la seconde près au geste.
On n'a pas le pire des métiers quand même, donc ça me dérange pas de travailler, non, pour qu'il y ait des chorégraphies.
Vous n'avez pas voulu être doublé dans ce film?
Pour quelle
aucune scène? Non, c'est une question.
J'ai une petite doublure. Bon, J'ai une petite doublure quand même à un moment. Non, mais pas fesses, tout ça. Pas... Ah, les seins! Ah non, j'ai pas de doublure. Je suis sublime, j'avais pas privé la France.
Florence Foresti et Mathieu Castevet sont nos invités.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Je m'en rappelais pas.
C'est comme le truc du film, quand même.
Mais je m'en rappelais pas. Ouais, ouais. Pardon.
Je n'aurais pas dit si vous n'aviez pas évoqué. Mais si, c'est, apparemment, c'est
non,
un argument.
Elle vit ça d'une manière tellement libre. Sur le tournage, elle était à poil tout le temps.
Vous aurez sifflé de bonheur, Leïla, quand on vous annonçait la venue de Florence Foresti, enfin pardon, Madame Foresti et Mathieu Klassovitz.
Et oui, quand je pense à vous, Florence, je pense à votre parcours et à votre statut d'intouchable aujourd'hui. Un parcours qui avait donné lieu à une émission sur C8 dont on écoute la bande-annonce.
À 20 ans, au réveil, t'es fraîche comme la rosée du matin.
Tu connais Florence Foresti ?
À 36 ans, t'es fraîche comme la bouteille de rosée de la veille.
C'est la meuf la plus drôle de France, quoi. Elle parle autant aux femmes qu'aux hommes.
Le rideau noir, il peut s'ouvrir plus vite ou pas ?
Je crois qu'elle a tissé une vraie histoire avec les gens.
Oh putain, carte muette ! Frotte la puce !
Ses angoisses font qu'elle fait des trucs complètement dingues, quoi.
Il y aura un avant Foresti et un après Foresti.
Voilà, un avant et un après Foresti.
C'est la voix des bandes annonces.
Ouh, en toute humilité.
Foresti, after Foresti.
D'un coup, c'est vraiment c'est émission
nous
spéciale.
Nous avons tellement de chance que ce soit pendant Foresti. C'est magnifique, merci.
Je vous en prie. J'ai failli pas la regarder. Je l'ai regardée parce que je voulais voir ce qu'ils disaient de moi, tous ces gens-là, et les remercier parce qu'ils sont trop mignons. Mais j'ai failli pas la regarder, l'émission, parce que j'avais l'impression d'être morte, tu sais. C'était un peu le truc nécrologique.
Que je comprends bien, c'était une émission hommage à Florence Foresti. Sans Florence
Mais qu'est-ce que tu crois, bien sûr.
Et sans Nicole Gatti.
Non, elle a refusé d'en mettre, donc on a été obligé d'assurer derrière.
Une spéciale Florence Foresti.
Toute la France.
C'était pas le macho qui faisait ça.
Personne
n'a osé. Non, pas du tout. Ah, t'as vu, ils ont, gardé, ils ont pris
ce titre. Alors chose, hein.
Non, d'accord, pas du tout. C'est une série documentaire sur les gens.
Sur C8, en fait, tout simplement. Ah, okay, sur les artistes.
Mais ça sort en Blu-ray. Six Blu-ray, c'est ça.
Six
Blu-ray de 4
heures. Pour avoir l'intégrale. Mais quand on entend ça, Florence Foresti, alors vous expliquez la gêne. Au départ, mais j'imagine.
Après
que...
de leur expliquer que ce film était sur la tolérance avec soi, s'accepter, sans regarder. Ouais.
Mais c'est pas moi qui l'ai commenté, le documentaire, ils font ce qu'ils veulent, attends.
Et qu'est-ce qu'on. Après ça, une fois qu'on entend tous ces compliments, j'imagine que. On est peut-être un peu angoissé, peut-être.
Ah, pas du tout, j'ai été déjà bien assez. Non, alors vraiment, au contraire, ça fait chaud au cœur. Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que t'as ?
Non, rien.
Il en fout rire, Casso. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce
non, mais
rien,
vas-y, réponds à la question.
Non, je l'étais bien plus avant, même, je dirais. Non, c'est plutôt.
Donc ça rassure. Ça rassure tout d'un coup de se voir consacrer.
Rien ne la rassure.
Non, rien ne la rassure.
Rien. Le docteur. Ah, si, son chien.
Oh, tu trouves qu'il m'arrête sur mon chien?
Bah, quand tu le regardes, quand t'es toute seule,
ça,
tu
y a
le regardes
doute,
comme ça le soir.
Ouais, fait... bonhomme, ouais,
hein,
c'est
ça. Hein
ouais.
Mais là on vous entend beaucoup. Là, vous avez été reçu par exemple dans Théo Café de Catherine Sellac. On vous consacre une émission entière et j'ai l'impression quand je vous vois dans l'émission que vous êtes
trop.
Très contente d'y être. Non, mais comme si vous étiez spectatrice.
Il y a des émissions qu'elle refuse aussi, je te rassure.
Ah oui,
bah ouais.
D'accord.
Ah non, mais quand j'accepte de faire une émission, je suis contente de la faire.
J'avais l'impression que vous étiez contente de voir Catherine Sellac.
Mais j'étais contente de voir Catherine Sellac. J'adore Théo Café. Mais parce que je fais que ce que j'aime dans la vie, vous comprenez la chance que j'ai. Bon voilà. Alors je dis ça, j'ai pas envie, ça j'ai envie. Bah là, je suis contente d'être là. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai pas envie d'être ailleurs.
D'accord. Voilà. Ok, ça c'est fait, ça c'est décidé. On poursuit avec vous, Mathieu. Quand je pense à vous, j'entends un film qui a 22 ans et qui plus que jamais reste d'actualité.
Moi j'en ai plein de cul super ce putain de système tous les jours comme un connard. On est là, on vit dans des trois rats comme des merdes et quoi ? Qu'est-ce que tu fais quelque chose toi pour changer quelque chose ? Tu bouges pas ton cul toi non plus.
C'est même triste que ce soit toujours l'actualité. Hein.
La majorité des flics dans la rue sont pas là pour vous taper, sont là pour vous protéger.
Ouais, qui nous protège de vous ?
Qui nous protège de vous ? Rien ne changera jamais, Mathieu Kassovitz ?
Ah non, va commencer pas à me lancer sur ça.
Bah non, mais en
c'est quand même un film. C'était quelle année ?
C'est un film de génération. 22 ans.
95.
Il y a 22 ans.
Une génération entière.
C'était déjà dramatique que ça existe à l'époque. C'était malheureux qu'on ait été obligé de faire le film à l'époque.
Mais une génération après, c'est toujours le cas. C'est ça qui est malheureux aussi.
Oui, mais le vrai problème, c'est ce qu'on dit dans le film, c'est pas juste le fait qu'un film soit toujours de l'actualité, ce sera toujours de l'actualité, il y aura toujours cette situation-là. Le problème, c'est que dans le film, on dit, on vous prévient que si vous faites pas attention aux gens aujourd'hui, si vous ne les respectez pas aujourd'hui, vous allez vous le prendre dans la gueule demain. Et c'est ce qu'on voit, voilà. Donc ça, c'est ça qui est dramatique. C'est pas.
Ça veut dire quoi? C'est ce qu'on voit là. On se le prend comment dans la gueule? Qu'est-ce que vous faites référence à quoi?
C'est le retour de bâton. C'est le retour de bâton.
Le retour de matraque.
On peut pas. Voilà.
Bah, si.
On peut pas. Oui, on ne peut pas. Bah, si. Non, mais on peut pas attendre du bien en créant du mal. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Et que les gens qui sont responsables, malheureusement, sont les gens qui sont responsables et pas les gens qui.
Pas victimes,
mais pas les gens qui vivent leur vie, quoi. Quand on est un môme de 15 ans et qu'on vit sa vie, on n'est pas responsable de la société qui nous entoure. On réagit, on vit ce qu'on a à vivre et rappelez-vous de comment vous étiez quand vous avez 15 ans, quoi. Donc, vous pouvez pas baser toute une société ou tout un système autour de gens qui font ce qu'ils font. Vous devez être droit, tellement droit dans vos bottes que vous donnez le bon exemple. Si vous ne donnez pas le bon exemple, ça ne peut que vous retomber dessus. Voilà, c'est tout. C'est le résultat qu'on a aujourd'hui. Allô?
Non, je passe.
Non, mais revenons à la promo
pause.
De Cheval avec Florence Foresti, qui est quand même la femme la plus drôle de France.
Non, mais j'ai l'impression que vous avez peur de tout d'un coup d'évoquer ce sujet.
Non, mais bien sûr, j'ai pas envie d'évoquer ce sujet en deux secondes entre deux rigolades, mais c'est un sujet qui est.
Oh, bah, c'est le propre de cette émission, c'est qu'on peut s'arrêter entre deux rigolades.
Non, mais bien sûr, ça mérite des débats. Mais le problème, c'est que je pense que le débat n'est plus d'actualité, personnellement. Donc,
carrément. Tu veux dire?
Je pense que c'est beaucoup trop tard, bien sûr.
Donc totalement pessimiste sur...
Non, je ne suis pas pessimiste. Il faut agir maintenant, il faut agir dans le bon sens, c'est tout. Parce qu'il y a aussi la possibilité d'agir dans le mauvais sens, qui est de plus en plus visible et probable, des deux côtés. Ouais. Donc il faut que au moins un côté agisse dans le bon sens. Voilà, si ça n'agit pas dans le bon sens, ça ira que dans le mauvais. Maintenant, est-ce que c'est à des mômes de 15 ans de comprendre la vie avant qu'ils ne la vivent? Ou est-ce que c'est à des gens qui sont des élus et qui comprennent, et des gens qui sont responsables et qui ont été entraînés et qui sont payés pour de maintenir l'ordre? Et voilà, c'est ça la question qu'il faut se poser.
France Inter, la bande originale, le best-of, avec Nagui.
The Wind Cries Mary, c'est une reprise de Jimi Hendrix par Fefe.
After all the jacks are in their boxes, and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street. Footsteps dressed in red, the wind whispers, Mary. Of the broken pieces of yesterday's life, somewhere a queen is weeping, somewhere a king has no wife, and the wind it cries, Mary. Now will the wind ever remember the name it has blown in the past? And with this crutch, its old age and its wisdom, it whispers, no, this will be the last. And the wind cries, Mary. Wind, yes, the wind cries, Mary.
Ça aussi c'est beau. Ça aussi c'est beau.
France Inter, la bande originale, le best-of.
Voici l'humeur de Frédéric Sims.
Bravo. Bonjour à tous, bonjour à toutes.
Salut.
Alors, ce week-end, oui, ça va, vous allez bien?
Ouais, bien.
Oui, ce week-end, Christine Angot, la romancière qui dispute à Michel Houellebecq le titre de la plus longue dépression de l'année, a écrit une lettre à François Hollande, quand je vous disais qu'elle allait pas bien, le suppliant de se représenter.
Dans le JDD.
Oui, dans le JDD, voilà. Donc, longue lettre qui est parue effectivement dans le JDD. Alors, moi, je me suis posé la question, c'est quoi le projet? Est-ce qu'elle pense que Hollande va faire une allocution, genre, mes chers compatriotes, j'ai finalement décidé de briguer un second mandat parce que Christine Angot, elle veut pas voter pour quelqu'un d'autre que moi. C'est cool.
Belle imitation.
Mais il reste quand même 60 millions d'électeurs à convaincre. Parce que j'ai l'impression qu'on est un petit peu partagé sur le sujet. Et là, je me suis dit, après tout, que moi aussi, je pourrais écrire une lettre. Alors, non pas pour que Hollande se représente, hein, parce qu'une période d'essai de 5 ans, les jeunes qui rentrent sur le marché du travail, ils ont pas ça. Hein, non, une lettre pour que les autres candidats ne se présentent pas. Voilà. Et je commence aujourd'hui par celui qui constitue une énigme pour moi, François Fillon. Voilà. Déjà, est-ce que tu peux me faire une petite musique de lettre, s'il te plaît? Très cher François Fillon. Oui, j'ai dit très cher. Non pas que je tienne particulièrement à vous, mais d'après ce que j'ai pu lire depuis plus d'un mois dans le Canard Enchaîné, vous nous avez coûté un paquet de pognon. Très cher François Fillon donc, je veux par cette lettre vous faire part de mon incompréhension la plus totale quant à votre obstination à devenir président. Vous me faites penser à moi quand j'essaie de rentrer dans un pantalon taille 44. Même avec la meilleure volonté du monde, ça va être mal barré. Mais laissez tomber, enfin. Alors, j'imagine sans mal que sur les marchés, vous devez rencontrer des tas de vieilles dames aux cheveux bleus qui s'agrippent à votre bras en vous priant « Tenez bon, ne lâchez rien, allez jusqu'au bout !» Ce qui est finalement le même genre de discours que ma femme, pourtant plus jeune, me tient dans l'intimité. Mais n'oubliez pas que ces gens qui vous accostent sur les marchés ne travaillent plus. Une vieille militante qui vous suit en meeting, c'est juste une personne qui se fait chier. Elle vote pour vous parce qu'elle a que ça à faire, mais les grèves, les manifs, les blocages de raffineries, c'est pas elle qui va les gérer. Elle va faire des sudoku pendant 5 ans en attendant le nouveau candidat à encourager. Je suppose également que vos amis vous expliquent que les sondages ne prouvent rien, que vous êtes dans une attitude de reconquête de l'électorat, que la justice est aux ordres du gouvernement, que vous êtes une victime. Mais dites-leur juste comme ça pour voir leur réaction qu'ils n'auront peut-être pas de ministère si vous êtes élu. Et vous verrez combien sont encore là si vous avez besoin d'un rein. Vous êtes comme tout le monde, François Fillon. Vous voulez être le héros de votre propre histoire. Mais monsieur Fillon, quand vous êtes seul avec vous-même, en pyjama, dans le seul sanctuaire de tranquillité qu'un père de famille connaîtra jamais dans son foyer, en gros, quand vous êtes aux chiottes. Est-ce que vous vous souvenez qu'avant les révélations du Canard Enchaîné, les perquisitions, les auditions de votre femme et de vos enfants, la droite avait un boulevard devant elle? Et qu'aujourd'hui, elle risque de perdre cette élection à cause de vous? Vous dites que votre programme est le seul à même de sauver la France. Bon, admettons. Personnellement, votre programme me fait penser à un médecin qui prescrit l'anorexie pour perdre du poids. Mais bon, admettons. Si vous pensez vraiment que c'est ce qu'il faut faire de mieux dans l'intérêt du pays, donnez votre programme à François Baroin. La voix de Barry White dans le corps de Tanguy. Ça va plaire aux gens, ça. Même Pulpizarre, le Pokémon avec votre programme, aujourd'hui, il serait élu. À moins, bien sûr, que tout ça soit une histoire d'ego. Et votre ego, dans le cas de figure d'un deuxième tour vous opposant à Madame Le Pen, il risque de ressembler à un banlieusard après un contrôle de police qui a mal tourné. Parce que dans mon cas, je vous le dis très gentiment, monsieur Fillon, non seulement je ne voterai évidemment pas pour le FN, mais je préférerais m'arracher les yeux avec une pince à sorbet plutôt que de voter pour vous. Donc, si le FN gagne l'élection de 2017, ça ne sera pas à cause des juges, monsieur Fillon, pas à cause de la presse, voilà, pas à cause d'un complot, pas à cause de votre programme, mais juste à cause d'un ego mal placé. Si vous voulez vraiment avoir la stature d'un président, faites comme François Hollande. Retirez-vous.
Le best-of sur France Inter.
À propos de lettres adressées en période présidentielle, le grand corps malade.
Monsieur le Président ou Madame la Présidente, à l'heure où je vous écris d'une main impatiente, je ne connais pas votre nom, je ne connais pas votre camp, mais permettez-moi ce message, ça ne prendra pas longtemps. Je veux d'abord vous adresser toutes mes félicitations. Vous venez de remporter la plus belle des élections. Vous avez dû batailler dur pour en arriver là, donner quelques mauvais coups et encaisser les coups bas. Mais si vous avez atteint la plus haute des fonctions, j'espère que ce n'est pas pour votre unique ambition, mais bien pour essayer, et par tous les moyens, de rendre une vie meilleure pour tous vos citoyens. Car vous le savez mieux que moi, le plus dur est à venir. Vous avez fait des promesses, il va falloir les tenir. Des gens ont voté pour vous, une belle majorité. Ne pas les décevoir sera la priorité. C'est que malgré tout ce qu'on dit, notre pays, on l'aime. On n'oublie pas la chance qu'on a, mais on voit bien les problèmes. Et c'est parce qu'on aime la France qu'on se doit d'être exigeant. Si vous voulez notre confiance, on ne pourra pas être indulgent. Bien sûr, on vous attend pour que vous vous penchiez sur le cas de ceux qui souffrent, de ceux qui luttent, de tous ces gens qu'on n'entend pas. Si vous vous montrez solidaire, c'est tout le pays qui va vous suivre. Un pays qui tend la main est tellement plus beau à vivre. Et si vous construisiez l'avenir en vous occupant des enfants, offrir à tous le même espoir de devenir fort en devenant grand. Il paraît que sur le drapeau il y a le mot égalité. C'est peut-être avec ce mot que vous gagnerez notre respect. On vous demande aussi de la franchise et un peu de sincérité. Tant pis s'il y a moins de rêves, au moins il y aura de la vérité. Ce serait bien que pour une fois on prenne le peuple au sérieux. Là-dessus, vu vos prédécesseurs, vous ne pourrez faire que mieux. Et si vous pouviez aussi agir sur l'ambiance générale, moins de regards de travers et une France plus conviviale. Toutes nos petites différences, c'est une richesse à sauvegarder. Un pays multicolore est tellement plus beau à regarder. Ayez la culture de l'humain plutôt que la culture du chiffre. Ayez la culture de demain en misant sur l'altruisme. Il paraît que sur le drapeau, il y a le mot fraternité. C'est peut-être avec ce mot que vous ferez notre fierté. Écrire au président, ça pourrait paraître pompeux. Mais c'est juste pour que vous sachiez qu'on a envie d'y croire un peu. Croire que ça peut marcher, même si souvent on a des doutes. Croire que ça peut changer, parce que là on fait fausse route. Monsieur le président ou madame la présidente, si je vous écris cette lettre d'une main exigeante, c'est que vous êtes au sommet, et franchement c'est la classe. Mais laissez-moi vous dire que j'aimerais pas être à votre place. Ça doit être chaud, c'est que du stress et de la pression à haute dose. Et tous ces gens qui vous écrivent alors qu'ils connaissent pas grand-chose. Quoi qu'il en soit, moi je suis sincère dans ces remarques que je vous lance. Maintenant c'est à vous de faire, la France vous regarde. Alors bonne chance.
Waouh.
Pablo Poli qui dit mais t'écris vachement bien Fabien. Elle a pas pris une ride.
Par contre le président lui.
Ouais, c'était il y a 5 ans.
Ça.
Ouais,
2012.
2012, ça plaît, mai 2012. J'ai peur qu'elle n'ait pas pris une ride, j'ai peur qu'elle soit d'actualité dans 5 ans. Je sais pas, j'espère qu'on en verra.
Faudrait la ressortir là.
Ouais, bah, c'est grâce à vous, ça y est, ça ressort.
Ah, bah non,
je vais la ressortir demain. Non, mais c'est vrai que là, c'est toujours d'actualité.
C'est dingue.
Ouais, ouais, j'avais c'est pas réécouté depuis 5 ans, je crois. C'est...
On parle de patient, ouais, moi aussi j'ai envie d'y aller. Encore. On parle de patient, ce film de Grand Corps Malade qui sort demain. Et on a demandé à François Chevet, merci François de venir à ce micro. Vous êtes kiné et vous étiez kiné au centre de réadaptation de Courbet en Seine-et-Marne. C'est-à-dire que vous vous connaissez bien tous les deux.
C'était mon kiné.
Voilà. C'est le barbu dans le film.
Voilà, exactement. C'est le vrai François qui est joué par Yannick Renier dans le film. Et voilà, c'est l'histoire de François. C'est notre binôme qui a été remis à l'écran. Et François, en plus, était là sur le tournage au quotidien.
Quoi, il vous a conseillé ?
C'était un peu le coach des acteurs pour le bon geste, la bonne position pour que tout soit très crédible en termes de para ou de tétraplégie.
Vous avez, François, retrouvé dans ces images ce qu'était le quotidien à Coubert ?
Oui, complètement. Aussi bien du côté soignant, que je connais un petit peu, et puis du côté patient, puisque sur les 5 personnages qu'on voit principalement à l'écran, il y en a 3 qui étaient mes patients.
D'accord. Donc, et tout ce que l'on a dit précédemment, c'est-à-dire les vannes, les montées plutôt les descentes d'humeur et voire les dépressions, tout ça, vous l'avez vécu, y compris l'absence de volonté d'aller dans la piscine, notamment pour faire quelques mouvements et une aération d'air chaud qui se fait pour certains. Enfin, tout ça, c'est
tout à fait. La piscine pour un tétraplégique, c'est quand même assez compliqué. Hein. Ils ont déjà des perturbations de sensibilité.
La verticalité thermique. Aussi.
Ouais, c'est très bien rendu, avec film, des effets un peu comiques.
Non, non, un vertige, ouais, c'est ça.
C'est-à-dire qu'ils sont tellement allongés, en fait, que tout d'un coup, quand on les aide à se redresser, c'est...
Tout le sang redescend dans les jambes. Il n'y a plus de muscles pour faire remonter le sang au cerveau.
D'où l'effet comique en question, que l'on ne développera pas.
Absolument pas. Autant mais le malaise, lui, existe.
Autant voir le film. Quelle a été votre première réaction en voyant Patient ? C'était une réaction d'émotion ?
Alors, il y a eu les deux. La première fois que je l'ai vu, c'était une réaction de travail. C'était pour constater à quel point les 5, mais pas que les 5 principaux, avaient été justes, en respectant à la fois les patients, également les soignants, l'équipe soignante. Ça, c'était ma première vision. Est-ce que ça, c'est bien ? Oui, là, on a réussi, ça, c'est pas mal. Et puis la deuxième fois, ça a été le versant d'émotion, parce que là, après, on lâche un peu, et on retrouve forcément des choses qui nous ramènent à tous dans notre passé. Et l'émotion, elle fonctionne très bien, parce qu'ils sont justes.
Un kiné a un sentiment de but à atteindre autant que le patient, c'est-à-dire qu'il s'implique autant et c'est autant une victoire pour lui que pour le patient que de réussir à obtenir des progrès d'un jour sur l'autre.
Alors c'est vrai que la victoire elle n'est pas forcément au bout des progrès, elle est au bout de la construction d'un projet de vie. Et ce projet de vie pour certains, il va effectivement s'accompagner d'une récupération, c'était le cas de Fabien. Pour d'autres, et on le voit dans le film, il n'y aura pas de récupération. Et malgré tout, il faut trouver un espoir adapté, il faut trouver un projet adapté, il faut construire avec les familles, avec le patient, une nouvelle façon d'envisager sa vie. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de qu'est-ce qu'on ne peut plus faire aussi.
Les moments clés, les moments charnières dans tout ce travail de rééducation, c'est comment les déterminer ? Est-ce que c'est prendre le problème du bon côté dès le début, savoir exactement quoi faire, ou c'est vraiment chaque seconde au quotidien, chaque séance qui est importante ?
C'est travailler sur l'autonomie dès le premier jour.
Le premier rapport est important aussi, entre le corps médical et le patient.
Oui. La confiance, être au service d'eux, voir ce qui va revenir, exploiter tout ce qui revient, et malgré tout être très franc, dire que si ça ne revient pas, on travaillera avec ce qui est revenu, et on va développer ça. On laisse du temps, c'est pas la peine d'être agressif ou brutal, même si nous, quelquefois, on arrive à savoir que ça ne reviendra pas.
J'ai l'impression que vous faites travailler, quelque part, plus l'esprit que les muscles dans le rapport.
Oui, mais le patient vous demande les muscles surtout, lui.
Ouais.
Il vient tous les jours en séance pour récupérer.
Et comment gérer le moral ? Comment est-ce qu'il y a des moments, on voit dans le film, il y a des moments où vous posez, où c'est plus le kiné, c'est vous asseyez, vous parlez, vous prenez le temps, oui. Justement aussi d'échanger. C'est extrêmement important.
Oui, en acceptant que justement, il ne faut pas forcément dire tout ce que la personne a envie d'entendre. Tu vas travailler, donc tu vas récupérer.
Et il faut forcément dire la vérité tout le temps ?
Oui. Oui, en l'accompagnant de toutes les précautions qu'il peut y avoir, parce que je crois que c'est bien dit, on parle d'espoir adapté, donc on ne peut jamais enlever l'espoir d'une récupération. À un moment dans le film, c'est dit, les progrès de la médecine existent, mais il faut aussi se confronter à la réalité. Et à un moment donné, il faut poser la blouse, entre guillemets, se mettre entre quatre yeux, et puis parler de la vie, parler de ce qu'on aime et de ce qu'on peut faire encore dans la situation dans laquelle on est.
Frédéric Sériste ?
Et moi, François, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que c'est pas finalement trop compliqué, c'est une question technique, de travailler au jour le jour avec un type aussi chien que Jean-Marie ?
Non, parce qu'on a beaucoup d'amour pour Jean-Marie. D'accord. De la même manière qu'il nous aime. C'est très très sympa de parler de Jean-Marie, parce que je crois
c'est
que
un personnage. Hein.
Ah, c'est un personnage. Ah ouais. Il est comme ça. Moi, j'ai toujours travaillé avec lui comme ça, et je crois que quand on le voit maintenant, il est encore comme ça. Et après, on se dit, mais comment est-il arrivé comme ça ? Et on ne sait pas grand-chose de Pablo. Est-ce qu'on sait des choses de Jean-Marie ? Je crois qu'il faudrait fouiller un peu. Ce qu'on peut juste dire, c'est que quand les soignants de proximité, vous parliez tout à l'heure d'intimité. Ouais. Sont plongés comme ça au quotidien. Dès le matin, imaginez, ils arrivent à 6h et tac, tout de suite, ils vont travailler, rentrer dans une chambre, aborder des problèmes intimes immédiatement. Il faut qu'ils se protègent.
Ouais. C'est pour ça
que et cette
il,
distance-là, elle est toujours là. Ouais. Elle est toujours là. Et en kiné, avec Fabien, très vite, moi j'aurais pu commencer par vous, monsieur M, comment nous allons faire, etc. Mais on sait qu'on a affaire à un sportif. Donc on travaille avec un tutoiement, on sait que là, on a des objectifs communs. Est-ce qu'un jour on sera dans les bars parallèles ?
L'humour, on l'a dit, est très présent. La manière dont il se chambre, dont il se vanne. Est-ce que ça, c'était particulièrement Fabien, ses potes et la bande qui c'était dans les années 90 qui s'est retrouvée là, ou c'est finalement intemporel, quoi qu'il arrive, dans tous les centres de rééducation, tous les malades ont besoin de cette forme d'autodérision et d'humour pour garder le moral ?
Oui, il y a un vrai humour patient, il y a un vrai humour soignant aussi. Hein. qui se retrouve, qui je pense est le même dès qu'on est dans des situations de handicap assez lourds. Maintenant, Fabien, au moment où il arrive dans le centre, il est entouré d'une bonne bande avec laquelle ça fonctionne bien. Ce n'est pas toujours le cas, des fois les gens n'ont pas forcément les mêmes structures de rapport entre eux. Là, ça fonctionnait très bien, on voit bien les origines aussi. Il y avait une culture commune qui se prêtait finalement à un effet de bande et à un effet de jeune.
Une culture un peu 9-3, il y a même carrément un fauteuil avec 9-3 comme s'il y avait une immatriculation de Seine-Saint-Denis.
Ouais, ça partait vite. Ouais,
c'est vrai. Ça partait vite. Et puis il y a l'humour et il y a l'amour, voire le sexe aussi. C'est un sujet qui est clairement débattu, qui est présent aussi, ou au contraire on met un voile pudique là-dessus et on n'en parle pas.
Non, il a sa place, il est aussi en fonction des demandes des patients. Or souvent, les garçons parlent avec les garçons, les filles avec les kinéfilles, etc. Nous, on a aussi un médecin qui est là pour ça, qui est habitué à ça, qui vous parlera aussi bien de sexualité que de procréation, etc. Il y a des choses importantes à dire et à faire assez vite.
Mais est-ce qu'il y a des assistants éventuellement
non, il n'y en a pas. Je sais
avoir des rapports sexuels, parce que ça existe.
Bien sûr. Aussi. Pas dans les centres de rééducation, non, parce que c'est un passage qui sera momentané quelque part, même si c'est entre 3 mois et 1 an. Après, je pense que dans certaines maisons d'accueil, oui, il peut éventuellement y en avoir. Je sais que la Belgique et les Pays-Bas, je crois, sont largement en avance là-dessus.
Non, mais ça existe.
En France, ça travaille bien.
On en a souvent parlé, mais c'est vrai qu'il y a un côté tabou. Il y a un côté dire, appeler comme ça une personne extérieure pour venir satisfaire un besoin sexuel et être rémunéré pour ça et repartir. Il y a un côté hypocrite et choquant. Ouais. Mais il y a aussi des histoires d'amour, ce qui est aussi là.
Et puis beaucoup de choses se passent en couple. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je peux aussi aller à l'extérieur trouver les travaux d'une jeune fille. Mais néanmoins, lorsqu'on a un handicap, on essaie de travailler tout de suite avec le conjoint. Donc là, il y aura des discussions, il y aura des explications qui vont être faites surtout par le médecin, mais qui peuvent aussi être assistées par le kiné, bien évidemment. Donc on construit avant tout le couple. Pour les gens qui sont seuls, oui, l'existence d'une assistante, évidemment, est souhaitée et sera une des solutions.
Et lorsqu'il y a l'un des patients qui est, on va dire, plus noir dans ses pensées, qui est-ce qu'il risque de tirer tout le groupe vers le bas en ayant justement des idées noires, ce qui est un peu aussi... sans divulgâcher ce qui va se passer dans le film, mais ça peut venir interrompre aussi une liaison ou un moment de drague, de se dire « Oula, cette personne-là a fait des tentatives de suicide et peut être un danger pour nous. »
Ça existe, les périodes noires, il faut qu'elles existent. Parce que la reconstruction passera par une période noire, bien évidemment. Il va falloir un moment de toucher le fond, et nous, il faudra qu'on soit là, il ne faudra pas qu'on mente, il faudra qu'on dise « Ouais, là, ça va être dur ». Là, il va peut-être falloir qu'on pleure, là, il va peut-être falloir qu'on se reconstruise, qu'on revoie un peu avec la famille, qu'on retravaille avec un médecin. Et le groupe, plutôt que de le faire plonger, c'est le groupe qui remonte, dès qu'il le peut, le moral de celui qui est un peu en berne.
Et est-ce qu'il y a une inégalité de traitement selon les centres, selon les moyens, selon comment ça fonctionne réellement ? C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, enfin, des centres privés, des centres publics mieux subventionnés. J'imagine que quand on est accidenté comme ça, on a envie de mettre toutes les chances de son côté et d'intégrer le centre le plus performant.
Tout à fait. On était déjà venu avec Fabien à un moment donné parler de cela à la sortie du livre. On avait déjà ce problème-là. C'est-à-dire que soigner une personne qui présente un handicap médulaire, ça va coûter cher.
Ouais.
Il faut l'admettre. Mm-hmm. Il faut le savoir. Est-ce qu'on va au bout de notre projet de santé ?
Mm-hmm.
Est-ce qu'on veut simplement dire, voilà, depuis les pompiers jusqu'à l'opération, jusqu'à l'arrivée dans le centre, ça, on a bien bossé. Et après ? Est-ce qu'on brade la rééducation, on sort tout de suite, ou est-ce qu'on l'entoure ? Là, il y a un vrai combat à mener, parce que j'entendais tout à l'heure Fabien parler du chiffre contre le être. Et c'est vrai qu'il faut se battre pour ça, parce que c'est le chiffre qui domine dans les centres de rééducation. Le projet médical est toujours plus dur à emmener lorsqu'il est bridé économiquement.
On manque de moyens, en fait.
On manquera toujours de moyens là-dessus. Il faut se battre tout le temps.
Il y a un domaine dont on n'a pas beaucoup parlé pour l'instant. Tout à l'heure, Fabien l'a évoqué. C'est la famille, c'est les proches, c'est les intimes, leur présence aussi. Les parents de Ben dans le film sont très présents, même au-delà des heures autorisées de visite. Est-ce que c'est souvent le cas, ou est-ce qu'il peut y avoir des proches démissionnaires?
On peut en trouver, mais vous parliez d'inégalité tout à l'heure. C'est vrai que voilà, la chance qu'a un patient, c'est aussi son entourage.
Ouais.
Là, Fabien, et on le savait d'emblée dès qu'on a vu la famille, c'est quelqu'un qui est très bien entouré, qui a un amour adapté à la situation à chaque fois. Et ça, c'est une grande force. Et d'autres dans le film ne l'ont pas. Et ça, on le voit bien.
Ils sont plutôt abandonnés.
Oui, ils ont des problèmes beaucoup plus compliqués sur leur entourage.
Ouais.
Ils n'ont pas cet univers sécurisé qui permettra de récupérer ce que l'on peut et d'être finalement avec ce qu'on a récupéré. Donc ça, c'est vrai.
La sortie, elle se passe, on quitte ce genre d'établissement pour différentes raisons. Soit on ne progresse plus et on va dans un centre adapté parce qu'il n'y a plus aucun travail à faire. C'est le cas de Simon,
de Toussaint,
dans le film. Soit, et c'est l'histoire de Ben, on peut à nouveau rentrer à la maison.
C'est vrai. Alors pour Fabien, c'est un peu particulier. Moi, je ne voulais pas qu'il parte. Parce qu'il n'avait pas complètement terminé sa rééducation.
Et comme Luke Skywalker.
Exactement. Et à un moment, je me suis dit, est-ce qu'on peut aller sur Tatooine ensemble ? Et finalement, j'ai demandé au médecin, très sincèrement, je lui ai demandé, est-ce qu'on peut encore garder Fabien deux mois pour qu'on travaille ? Parce qu'en termes de rééducation, des gens incomplets.
Il y avait encore du taf,
ouais. Oui, il y avait encore du taf. Et elle, très intelligemment, elle m'a dit, mais son projet à lui, c'est de ne pas être trop vite déscolarisé. C'est un jeune, il a besoin d'être confronté en même temps, pas qu'à la récupération, mais à la récupération, la rééducation et une reprise des
études. Oui, parce qu'à l'époque, vous étiez étudiant en STAPS. Hein,
ouais,
vous
vouliez faire un STAPS. Étudiant, on ne sait pas trop, mais enfin bon, un peu comme ça, vous savez, les basketteurs, c'est toujours un peu glandos. Hein, mais...
Attendez, attention à ce que vous dites.
C'est un concert aussi.
Par hasard, sur un shoot un peu lancé comme ça.
Je ne sais pas qu'il voulait que je finisse ma rééducation, c'est qu'il avait peur que je lui manque. Au bout d'un moment, il faut le dire.
C'est bien dit dans le film.
C'est joli, c'est joli.
Donc voilà, pour lui, il y a eu cette belle complicité.
C'est quand même une déclaration d'amour aussi faite au personnel hospitalier, ce film. J'imagine qu'elle vous voit, elle vous voit droit au cœur.
Tout à fait, dès que je vois Christiane, je sens que c'est une déclaration d'amour. D'ailleurs, je crois que Pablo le fait très très bien dans une de ses scènes. Ouais. On ne dit rien.
Merci François Chevet, merci d'être venu. On n'a fait aucune vanne. Vous avez dit Chevet, malade, patient, on a fait zéro vanne.
Est-ce que je peux simplement préciser quelque chose?
Oui.
Voilà. Je tiens à remarquer principalement l'énorme travail des cinq. des seins qui étaient des véritables, des éponges.
Pour être plus proche de la réalité.
Une adaptation,
il buvait
une écoute.
Beaucoup, des éponges, parce qu'il buvait beaucoup.
Pas tous, pas tous.
On aurait dit trop.
Mais vraiment une excellente écoute.
Et ils sont
dans
justes,
un
en tout cas ils sont justes.
Et très respectueux de ce qu'est de la réalité. Merci à vous.
Merci François Chevet. Merci. On voit bien Frédéric Sigrist que face au handicap, la solidarité, l'entraide sont les meilleures armes. C'est des valeurs qu'il faut transmettre. Les proches, les amis.
C'est dingue, il est riche, il est brillant, il pense aux autres. Youpi! C'est Monsieur Guy. Même si aujourd'hui, il me semble que vous avez surtout oublié de penser, en fait.
Ah bon?
Non, Monsieur Guy, face au handicap, une seule solution. Il faut fuir et penser qu'à sa gueule. C'est d'ailleurs ce que vous me disiez encore ce matin, vous moquant de mon infirmité anacondienne, hein, tout en garant votre hélicoptère en diamant sur une place handicapée. Il faut fuir les handicapés, Monsieur Guy. Déjà, parce que dans un premier temps, il va leur être très difficile de vous rattraper. Et ensuite, parce que vivre aux côtés d'un handicapé, et je le sais, j'en ai un à la maison, c'est l'impossibilité de se plaindre au quotidien. Oh, ma chérie, j'ai de la fièvre, j'ai le nez qui coule, je crois que c'est bientôt la fin. Oui, bah regarde ton fils, il fera jamais drôleur, est-ce qu'il se plaint, lui ? C'est la dictature du relativisme au jour le jour. Essayer de susciter de l'empathie aux côtés d'un handicapé, c'est comme essayer de draguer à côté de Ryan Gosling ou d'Harry Roselmack. Personne vous calcule. Après, faut pas s'étonner que dans un pays comme la France, où se plaindre est devenu une discipline olympique, on soit à la traîne en termes d'accessibilité pour les personnes en mobilité réduite. Comment vous voulez râler sur votre sort si partout vous êtes entouré par des gens qui vivent des trucs pires que vous ? C'est QFD ! Et d'ailleurs, à propos de discipline olympique, quelle arrogance, quelle indélicatesse de ces athlètes aux Jeux Paralympiques qui font avec des membres en moins des exploits sportifs que je suis pas capable de faire avec des membres en plus. Hein, regardez, monsieur Sigrist, sans les bras, sans les pieds. Oui, bah ça va, hein. L'autre jour encore, mon épouse s'extasiait sur Philippe Croizon. Tu te rends compte, Fred, le type a quand même traversé la Manche à la nage, sans bras ni jambes. Oui, bah ton Croizon, là, il arrive peut-être à traverser la Manche en nageant, n'empêche, il doit pas souvent mettre la table. Non, monsieur Guy, non. Il faut fuir le handicap. À moi, comme vous me le disiez encore ce matin avant l'émission, d'être comme vous, parrain officiel du Téléthon. Hein, ce qui, je vous cite, reste le meilleur moyen.
Je ne suis pas parrain.
Si, vous me l'avez dit ce matin.
Non.
Hein. Bah, pourtant, vous vantiez à la machine au café. Hein. Remarque, la stagiaire qui est en face de vous n'était peut-être pas étrangère à cette déclaration.
J'ai te frappé, Frédéric.
Ce qui, je vous cite, reste le meilleur moyen de passer pour un type bien et choper un paquet de gonzesses. En dehors de ça, je crois qu'on peut le dire, vous avez dit une fois de plus,
N'importe quoi.
Merci, Frédéric.
France Inter, les meilleurs moments de la bande originale avec Nagui.
Eh ben ça tombe bien parce que Anna Kova est là justement et en duo avec Grand Corps Malade, ils interprètent la chanson qui est la chanson du générique accompagnée par Angelo Follet, ça s'appelle Espoir adapté, c'est en live dans la bande originale.
Bah ouais, c'est sûr, c'est la merde, c'est pas trop ça qui était prévu. Nos ambitions sont en berne et notre avenir en garde à vue. Et si c'est vrai que l'intelligence et la capacité d'adaptation, il va falloir la jouer rusée face à certaines situations. Avec une enclume sur le dos, les pieds liés et le vent de face, c'est déjà plus dur d'aimer la vie, de faire des sourires dans la glace. On a perdu la première manche, mais le même joueur rejoue. Le destin nous a giflé, on veut pas tendre l'autre joue. Alors va falloir inventer avec du courage plein les poches, trouver autre chose à raconter pour pas louper un deuxième coche. Il y avait sûrement plusieurs options et finalement on a opté pour accepter cette position, trouver un espoir adapté. Alors on va relever les yeux quand nos regrets prendront la fuite. On se fixera des objectifs à mobilité réduite. Là-bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter. On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté. Sport adapté, c'est l'envie de croire qui résiste. Même en milieu hostile, c'est la victoire qui existe. Ces cinq potes un peu perdus qui tentent de battre encore des ailes. C'est retrouver le goût de la sueur entre deux barres parallèles. Un espoir adapté, c'est de l'espoir bousculé. Parce qu'on est dos au mur, y a plus de place pour reculer. Comme un instinct de survie, on pense encore à avancer. À la fin de quelque chose, y a bien un truc à commencer. Après avoir nagé au cœur des points d'interrogation, on va sortir de la torpeur, certains diront reconversion. Là-bas au bout des couloirs, y aura de la lumière à capter. On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté.
Et le meilleur de la bande originale, c'est à suivre dans quelques instants sur France Inter avec André Dussolier et José Garcia.
Le meilleur de la bande originale, suite et fin, ça continue avec Leïla Kadour-Boudadi, Daniel Morin, Tom Villa et Frédéric Sigrist. Nos invités sont André Dussolier, José Garcia et en live, il y aura la famille Souchon. Le meilleur de la bande originale, la suite, c'est parti, c'est maintenant. Fond, et vous l'avez entendu tout à l'heure avec Jérôme Colombin qui était notre invité sur les objets connectés qui vont changer la vie mais qui ont déjà commencé à changer la vie, on s'en est rendu compte, très présent avec les smartphones, très présent avec les ordinateurs, très présent avec même, je crois que tous les ascenseurs de Radio France doivent être gérés par ordinateur, pareil pour les avions et les régulateurs de vitesse dans la voiture, c'est ce qui se passe dans le film à fond. Le régulateur de vitesse se bloque et il se bloque alors que rien ne se débloque réellement dans l'ambiance et dans la tension humaine qu'il y a à l'intérieur de la voiture entre José Garcia, André Dussolier, Caroline Vigneault, qui en plus est enceinte. Je donne le nom des enfants parce que il y a Joséphine Caliès et Stylan Lecaille qui interprètent Noé et Lison, qui sont juste parfaits.
Ouais, ils sont trop mignons.
D'une justesse remarquable. Vincent Desagna jouant un policier un motard de la route, ouais, aux côtés d'Ingrid Donadieu. Florence Foresti en capitaine des CRS de la route.
Joueuse
de ping-pong.
Pongiste imbatable, ouais. Et Charlotte Gabris.
Et Charles Gabris. Qui est le marchand, qui est celui qui vous a vendu le
voiture. Oui, pour 1 euro, là, c'est un bel escroc, lui. Mais il y en a un aussi qui s'appelle Vladimir Oubar, qui lui est un cascadeur de l'équipe julienne et qui en fait est le fameux Jackie qui nous suit et qui est un acteur hors pair d'une intensité hors norme.
Qui avait déjà joué dans Babysitting 1, qui était le gitan dans la foire du trône, etc.
Oui, qui se faisait rembourser ses frites et qui prenait un coup d'extincteur.
D'accord, oui, j'avais pas repéré.
Il est extraordinaire.
En tout cas, de très bons comédiens. Dans un rythme, c'est dans le titre, c'est pas la peine de le préciser, avec la prouesse aussi technologique d'accrocher, parce qu'on peut pas accrocher n'importe quelle caméra, n'importe quelle voiture. Ça pose des problèmes d'équilibre de la voiture et de poids, deux, de stabilité de l'image, et pourtant.
Après, il a bossé chez
Autoplus. Non, et pourtant, c'est le cas. C'est-à-dire que c'est filmé Dominique à bord, parce que les techniciens ne peuvent pas être à bord de la voiture.
Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe. On a construit 5 voitures. 5 voitures qui étaient posées sur l'autoroute. On a loué en tout, Nicolas Benamou a bossé pendant 8 mois et nous a montré avant même qu'on commence le film la manière dont il allait tourner tout ça. Pour que ça soit extrêmement fluide, il nous a dit, vous allez tout seul dans le véhicule. Et nous, on sera sur la voie d'à côté, sur l'autoroute, dans des camions avec des cadreurs à distance, tout électronique.
Donc, il faut privatiser l'autoroute.
Alors, ils ont loué 105 km d'autoroute parce que ça floue dans les deux sens.
Non, ils ont loué 105 km. Tu fais quoi ce week-end? Ben, je vais louer 105 km
d'autoroute. On a toutes les adresses, si ça vous dit. En fait, c'est loué vide. Et après, David Julien et Christophe Marceau, qui sont les deux règleurs de cascade. Et
le fils de Rémi Julien.
Le petit-fils de Rémi. Ouais. Et ils sont arrivés avec 40 pilotes de précision, 200 cascadeurs, parce qu'on avait aussi des cascadeurs macédoniens. Donc il fallait le faire en 3 langues, en anglais et aussi en macédonien. Et en fait, on se mettait à répéter, parce qu'évidemment, on n'a pas le droit de se tromper dans le texte. Parce que les pilotes de précision ont les oreillettes et nous entendent. Donc nous, on est 40 à jouer, en fait. On est 6 à jouer la comédie dans la voiture. Et puis 40 pilotes de précision qui viennent nous percuter en direct pendant qu'on joue. Donc voilà, et puis toute la comédie.
Et Vincent Desagna à moto, vraiment à moto.
Ah oui, à lui, il est passé avec Ingrid Donadieu, ils ont passé leur permis. Alors ça, c'est très drôle parce qu'en fait, quand c'est vous venez de passer le permis, vous n'êtes pas prêt à jouer. C'est-à-dire que vous arrivez à la hauteur de la moto et puis lui, il tend la main pour nous dire un truc et il s'est tapé 2 fois la portière. Donc après, il n'était pas dans le cadre parce qu'il faut se tenir à 110 km/h. Lui, il est obligé d'être à 115 km/h pour être dans le cadre. Donc ça a été une rigolade, on a passé je sais pas combien de temps sur l'autoroute, on a fait 30 km d'abord le premier coup pour qu'il soit dans le cadre, pour qu'il arrive, sinon il était en avant, en arrière, donc ça a été
c'est dangereux. Ouais, ce que j'ai dit, il y a eu des moments d'angoisse.
Oui,
vraiment dangereux. André, vous avez eu des moments d'angoisse ou pas vous?
On n'a pas le temps d'y penser parce qu'il y a une telle adrénaline, d'abord c'est vraiment au cordeau, hein, c'est au centimètre près, parce qu'il y a à la fois la comédie, il y a à l'intérieur de la voiture, entre ces 6 personnages, et puis aussi les voitures, le ballet des voitures. Il y avait le ballet autour de la voiture et le ballet aussi à l'intérieur, quoi. Donc tout était vraiment réglé, on avait pas mal répété. Puis comme l'a expliqué José, il y avait quand même plusieurs voitures, c'est-à-dire que les caméras étaient placées pour faire, filmer certains personnages. Après, on changeait de voiture, il y avait d'autres plans. Non, c'était vraiment... Et puis, il fallait aller vite, parce que le soleil se couche vite là-bas, en Macédoine.
Mais du coup, si pour il faut quand il y a la moto et la voiture, il faut qu'il y en ait un qui soit à vitesse constante. Du coup, il y avait un régulateur de vitesse ou pas?
et en même temps, il y a tous les ressorts de la comédie dite traditionnelle, c'est-à-dire qu'il y a le père du mari joué par André Dussolier, totalement déluré. On se demande même s'il prend pas de la drogue ou des produits dérivés, tellement il
prend
est.
Il
prend du Fanta. Oui, avec un peu de vodka. Quand
il
même.
Est déjà, c'est ça. Je crois qu'il y a pas mal de vodka. Il jette le Fanta par le balcon, j'allais dire, non, par la fenêtre, et il le remplit de vodka. Mais aussi avec des situations de vaudeville, qui a trompé qui à quel moment, il y a pas de placard avec des amants cachés, mais
il y a tous les problèmes de la famille qui ressurgissent, qui éclatent évidemment, etc. Parce que les comptes se règlent aussi dans ces moments de crise, et tout ça tout en circulant à droite, à gauche, au milieu des voitures et en slalomant. Tout est crédible. Quoi,
c'est un ressort de comédie, ça. C'est lorsque tout est en train d'être le plus dramatique possible dans et on se dit on n'a plus que quelques secondes, tout se dit, c'est-à-dire que tout sort. Et maintenant je vais te le dire, j'en ai marre et tout sort.
En effet, José a envie de savoir des choses parce qu'il y a les enfants aussi qui balancent aussi quelques petites vérités, etc. Tout ça, c'est un moment de crise en effet. Et puis surtout, on commence à dire un truc.
Le truc que tous les parents ont essayé de faire, c'est-à-dire employer des mots anglais pour que les enfants ne comprennent pas. C'est extrêmement drôle dans le film parce que ce sont les enfants qui corrigent l'anglais des parents.
Comme
parce
si les enfants ne comprennent pas.
Ils parlent mieux.
Ils parlent mieux.
Ben, ils parlent mieux que les parents. Ouais. Ça s'appelle À fond et la sortie est le 21 décembre prochain avec André Dussolier et José Garcia qui sont nos invités. Nous passons de l'excellence de ces comédiens à l'extrême.
Il est odieux.
Dans les bas-fonds, se taire. Daniel Morin.
Merci. La bande originale, le best-of sur France Inter.
Eh bien, tant pis, parce que je peux vous dire, Nagui, je peux vous dire, je suis de super humeur. Je suis heureux, mais heureux comme un morandini au salon de la douche et des sanitaires. rien ne peut m'atteindre. Figurez-vous que j'ai appris une excellente nouvelle.
Ah bon ?
Mais une nouvelle comme on en apprend très très peu dans une vie d'homme. Figurez-vous que jusque-là, on croyait que les miracles n'arrivaient qu'à Lourdes. Les miracles du style « je suis guéri bien que la maladie et la médecine m'aient condamné ». Eh bien, ce n'est plus vrai. C'est ce qu'on apprend à l'occasion d'une déclaration de Clémence Brinktown. Clémence Brinktown, c'est la chanteuse du groupe de légende La Compagnie Créole. Eh oui, évidemment. Clémence qui a récemment déclaré qu'à l'occasion d'un concert, une femme était venue la voir pour lui dire que la médecine qui lui avait certifié qu'elle ne retrouverait jamais l'usage de ses jambes, mais un jour un ami lui a apporté un disque de La Compagnie Créole et qu'à force d'écouter le tube « C'est bon pour le moral », elle a guéri. Ses orteils ont commencé à bouger, puis génial. La jambe, et hop, le tout, debout, un vrai miracle. Bien figurez-vous, Nagui, moi j'y crois au pouvoir du zouk. Oui, j'y crois. Du coup, aujourd'hui, en direct, je vais tenter de sauver la France, avec l'aide, bien sûr, de Fred Sigrist, ma caution créole. Par le pouvoir du saint slip de Francky Vincent, écoute la transe du zouk, François Fillon, écoute et laisse-toi aller.
C'est bon pour la morale.
Le pouvoir du zouk te l'ordonne, François. Renonce au licenciement des 500 000 fonctionnaires. Renonce, je le veux. François, Vincent, Marie-Jo Pérec le veulent aussi. Je veux maintenant, je m'adresse à toi. Marine Le Pen, tu m'entends? Écoute-moi ce zouk, Marine. Oui, toi, la fille du vieux cyclope, ce zouk qui te commande. Renonce à la présidence. Renonce à cette élection. Pars en vacances. 5-6 ans. Oui, pars aux Caraïbes. Donne ton corps le frisson, la fièvre. Surtout, n'oublie pas d'emmener ta famille avec toi. À présent, je te parle à toi, Emmanuel Macron. Écoute-moi, Emmanuel. Ce zouk, Manu. Écoute-moi, c'est pour toi. À partir de maintenant, tu vas arrêter de faire le mec possédé sur scène. Calme-toi. Oui, Manu, tu vas te calmer d'urgence parce que tu fais peur à tout le monde.
Je continue.
Mais oui, bon Dieu, continue, ça marche.
C'est long.
Je sens que le zouk fait des miracles en ce moment. Je sens François Fillon, Emmanuel Macron calmé, Marine en train de faire ses bagages. Allez, un petit pour la route. Nagui, toi qui commences à te trémousser sur ton siège, écoute le diable, tu vas aller demander après cette émission une énorme augmentation pour moi. Je veux une augmentation pour 2017. Pas autant que ce que tu gagnes, mais quand même, demande-moi un truc conséquent. Vas-y, Philippe Laville le veut. Allez, un petit dernier. Toi la voisine du cinquième, toi la grande blonde avec des seins énormes, laisse-toi porter par le rythme du zouk. Oui.